Chapitre 24. Quelqu'un approche, dit Richard en ouvrant les yeux. Assise de l'autre côté du feu de camp, Sœur Verna cessa d'écrire dans le petit livre d'habitude passé à sa ceinture.
« Tu as réussi à toucher ton Han ?»
demanda-t-elle en regardant le jeune homme. « Non, avoua-t-il. Ses jambes lui faisaient un mal de chien après être resté sans bouger une bonne heure. Mais je crois malgré tout que quelqu'un approche. » Chaque soir, c'était le même rituel. Assis les yeux fermés, Richard imaginait l'épée sur son fond blanc et tentait d'atteindre cet endroit, à l'intérieur de lui-même, où se cachait prétendument son Han. Jusque-là, il ne l'avait pas trouvé, s'échinant en vain pendant que la sœur l'observait, prenait des notes dans son ouvrage magique ou se concentrait sur son propre pouvoir. Depuis la première nuit, il n'avait plus visualisé le carré noir entouré de blanc, histoire de ne pas retomber dans son cauchemar.
« J'ai peur de ne pas pouvoir toucher mon Han. Je fais de mon mieux, mais ça ne marche pas. »«
Combien de fois devrais-je te répéter, Richard, que ça prend du temps ?»
Verna recommença à écrire.
« Tu manques d'entraînement, mais ne te décourage pas, ça finira par venir. »«
Sœur Verna, je vous dis que quelqu'un approche.
Comment peut-il savoir si tu n'as pas touché ton Han ?»«
Je l'ignore, »
admit Richard.
Mais j'ai passé beaucoup de temps seul dans les bois. Parfois, je capte les présences étrangères, pas vous?
N'avez-vous jamais senti peser sur vous le regard de quelqu'un?
Si, mais seulement avec l'aide de mon Han,
répondit Verna sans cesser d'écrire.
Sœur Verna, selon vous, nous sommes dans un territoire hostile, et je maintiens que quelqu'un approche.
Verna feuilleta le livre en arrière et plissa les yeux pour lire.
Depuis combien de temps sais-tu ça, Richard?
« Quelques instants. Je vous l'ai dit dès que j'en ai eu le sentiment. »«
Et tu n'as pas touché ton Han ? Il ne s'est rien passé en toi ? Aucune sensation de pouvoir ? Tu n'as pas vu de lumière ni senti le Créateur ?»
Elle fronça les sourcils.
« Ne me mens pas, Richard. Au sujet de ton Han, ne t'avise jamais de me mentir. »«
Sœur Verna, vous ne m'écoutez pas. Quelqu'un approche.
Richard !»
dit la femme en refermant son livre.
« Je le sais depuis que tu as commencé ton exercice. »
« Alors pourquoi restons-nous assis à ne rien faire ?»«
Qui prétend que nous ne faisons rien ?»« Tu t'entraînes et je travaille. » »«
Mais vous ne m'avez rien dit. Pourtant, ce pays est dangereux. »
Verna soupira et remit le livre à sa ceinture.
« Parce que ceux qui approchent sont encore loin, » soupira-t-elle. « Il n'y a aucune raison de déroger à notre routine. Tu as besoin de t'entraîner, Richard. »
Elle secoua la tête.
« Mais te voilà bien trop énervé à présent. Nos visiteurs sont à un bon quart d'heure d'ici. Nous devrions commencer à lever le camp. »«
Et pourquoi si tard? Nous aurions pu partir dès que vous les avez sentis. » »«
Nous avons été repérés, Richard. Une fois que c'est fait, impossible d'échapper à ces gens. C'est leur pays, et nous ne les sèmerons pas. » Une sentinelle nous aura probablement localisés.
Si fuir est impossible, pourquoi lever le camp ?
Verna regarda le jeune homme comme s'il était un abruti congénital.
Parce que nous ne pourrons pas dormir après avoir tué quelqu'un.
Tué ?
S'écria Richard en se levant d'un bond.
Vous ne savez pas qui vient et vous préméditez un massacre ?
Verna se redressa et plongea son regard dans celui du sourcier.
Richard ! J'ai fait de mon mieux pour éviter ça. Avons-nous croisé quiconque jusque-là?
Non.
Pourtant, ces gens grouillent sur ce territoire comme une colonie de fourmis rouges. Grâce à mon Han, nous les avons évités. J'ai fait de mon mieux et ça n'a pas suffi. Il en va parfois ainsi dans la vie. Je ne veux tuer personne, mais si on en a après nous...
Cela expliquait l'étrange itinéraire qu'ils avaient suivi. Depuis le début, ils avaient zigzagué sans cesse, revenant même parfois en arrière. Richard n'avait pas posé de questions car Verna ne lui aurait sans doute pas répondu, et de toute façon, où qu'ils aillent, il restait un prisonnier. Le jeune homme recouvrit leur feu de terre. La nuit était agréablement chaude comme les précédentes. Qu'était-il donc advenu de l'hiver?
Vous n'allez pas massacrer des gens que nous ne connaissons pas.
Richard, toutes les sœurs de la lumière ne parviennent pas à retourner chez elles. Beaucoup meurent en essayant de traverser cette contrée. Jusque-là, elle voyageait toujours à trois. Moi, je suis seule. Des statistiques très défavorables, non? Les chevaux s'agitèrent, raclant le sol de leurs sabots. Richard mit son baudrier et vérifia que l'épée de vérité coulissait bien dans son fourreau.
« Vous avez eu tort de ne pas filer quand c'était possible. On se bat quand il ne reste aucune autre solution, mais vous n'avez même pas essayé. »
« Ces gens ont l'intention de nous abattre tous les deux, » dit Verna. « Si nous avions tenté de fuir, celui qui nous a repérés aurait alerté les autres et nous aurions eu des centaines, voire des milliers de poursuivants aux trousses. J'ai préféré tendre un piège à un petit groupe. »
« Je ne verserai pas le sang pour vous, sœur Verna, » avertit le sourcier.
Alors qu'il se défiait du regard, un cri de femme retentit. Richard sonda la nuit mais ne distingua rien. Pourtant les cris approchaient. Il étouffa les dernières flammes de leur feu de camp et alla voir les chevaux pour les calmer avec des caresses et des mots apaisants. Verna pouvait dire ce qu'elle voulait, il ne tuerait personne pour ses beaux yeux, elle était folle de ne pas avoir fui. À moins qu'elle veuille un combat, histoire de voir comment il se comporterait. Elle l'observait sans cesse, comme un entomologiste étudie une fourmi, l'accablant de questions chaque fois qu'il s'entraînait à toucher son han. Quelle que fût cette force, il ne parvenait pas à y accéder. Pour être franc, ça ne l'empêchait pas de dormir. Richard finissait de remplir leur sacoche de sel quand une femme déboula dans leur camp en hurlant de terreur.
« Par pitié !»
cria-t-elle en se précipitant vers le sourcier.
« Ne les laissez pas m'attraper !»
Elle tituba en arrivant près du jeune homme qui la prit dans ses bras, bouleversé par son visage sillonné de larmes et de sueur. Son angoisse lui serra le cœur.
« Par pitié, monsieur !»
gémit-elle en levant vers lui ses yeux noirs.
« Protégez-moi !» « Vous n'imaginez pas ce que ces hommes risquent de me faire !»
Richard repensa à sa rencontre avec Alan quand un quatuor la poursuivait. La terreur de cette femme était l'écho fidèle de celle de la mère inquisitrice ce jour-là.
« Personne ne vous maltraitera. Vous êtes en sécurité à présent. »
La femme sortit ses bras dessous son manteau et les passa autour du torse de Richard, ses yeux noirs toujours rivés dans les siens. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais poussa un petit gémissement. De la lumière jaillit de ses yeux et elle s'affaissa dans l'étreinte du sourcier. Richard croisa le regard de Verna tandis qu'elle retirait sa dague du dos de la fugitive. Il laissa glisser le cadavre sur le sol et dégaina son épée.
« Espèce de folle ! »
cria-t-il.
« Vous venez d'assassiner une femme !»«
Je croyais, Richard, que tu n'avais plus aucune inhibition stupide vis-à-vis de la gente féminine. »«
Vous êtes cinglé !»
lâcha Richard. Il leva son épée. « Avant de me passer ta lame dans le corps, » dit Verna très calme, « je te conseille de regarder la main de cette femme. » Le sourcier baissa les yeux, écarta les pans du manteau et découvrit un couteau serré dans le poing droit de la morte. La lame était constellée de traînées noires.
« Elle t'a blessé ?» demanda Verna.
« Non ? Pourquoi cette question ?»
demanda Richard, toujours furieux.
« La lame est enduite de poison. Une égratignure suffit. »
« Rien ne prouve que c'était pour moi. Elle voulait sûrement l'utiliser contre ses poursuivants. »
« Personne ne la traquait. C'est la sentinelle dont je parlais. Tu me demandes sans cesse de ne pas te traiter comme un enfant, Richard. Arrête de te comporter comme si tu en étais un. » « Je connais ces gens et leurs ruses. Elles voulaient nous tuer. »«
Nous aurions pu fuir quand elle nous a repérés. »«
Et nous serions morts à coup sûr. »« Crois-moi, ces gens n'ont pas de secret pour moi. »« Le pays sauvage fourmille de peuples qui n'ont qu'un point commun, le désir de tuer tous les étrangers. »« Si nous l'avions laissé prévenir les siens, c'en était fini de nous. »« Ne te laisse pas aveugler par la fureur de ton épée. » Cette femme avait un couteau empoisonné et elle s'est précipitée dans tes bras pour pouvoir te l'enfoncer entre les omoplates. Tu t'es comporté comme un crétin, mon garçon. Regarde derrière toi. Où sont ces poursuivants?
Nulle part. Sinon, je les sentirais avec mon han. Cette femme était seule et je t'ai sauvé la vie.
Pour ce qu'elle vaut, ce n'était pas une grande faveur, sœur Verna,
dit Richard en rengainant son épée. Il ne savait plus que croire.
mais il en avait assez de la magie et des tueries. Quand elle est morte, de la magie a jailli de ses yeux. Votre dague est une arme étrange.
C'est un dakra. En un sens, on peut le comparer au couteau empoisonné de cette femme. Ce n'est pas la blessure qui tue. Le dakra souffle l'étincelle vitale de l'être qu'il frappe.
Verna baissa les yeux. Voler une vie est un acte douloureux, mais parfois il n'y a pas d'autre solution. Ce soir, que tu le crois ou non, je nous ai sauvés.
Tout ce que je sais, sœur Verna, c'est que vous n'avez pas tenté d'éviter ça.
Il se détourna.
Je vais enterrer votre victime.
Richard, j'espère que tu comprendras et que tu ne te méprendras pas sur nos intentions.
Mais quand nous arriverons au palais, nous serons peut-être obligés de te confisquer l'épée de vérité, pour ton propre bien.
Pourquoi ? En quoi cela pourrait-il me bénéficier ?
La prophétie que tu as mentionnée sans le savoir dit ceci. C'est le messager de la mort et ainsi se sera-t-il lui-même nommé. C'est une des plus dangereuses. La suite dit que le porteur de l'épée peut invoquer les morts et ramener le passé dans le présent.
Ce qui signifie ?
Nous n'en avons pas la moindre idée.
Les prophéties,
marmonna Richard.
Ce sont d'absurdes devinettes, sœur Verna. Vous leur accordez bien trop d'importance. Sans les comprendre, de votre propre aveu, vous prétendez les suivre fidèlement. Seul un idiot agit ainsi. Si ces choses étaient vraies, j'invoquerais les morts et je rendrais la vie à cette femme.
Nous sommes moins ignorantes que tu le penses. Il sera plus prudent de te prendre l'épée jusqu'à ce que nous comprenions mieux la prophétie.
Si on vous retirait votre dakra, seriez-vous toujours une sœur de la lumière ?
Bien sûr. Cette arme est un outil, rien de plus. Elle ne nous confère pas notre statut.
C'est la même chose avec l'épée, lâcha Richard. Avec ou sans elle, je reste le sourcier. Désarmé, je ne serai pas moins dangereux pour vous.
C'est différent, fit Verna en serrant les poings.
Vous ne me prendrez pas l'épée, affirma Richard.
Sœur Verna, vous n'imaginez pas à quel point je hais cette arme et sa magie, et combien j'aimerais en être débarrassé. Mais on me l'a remise quand j'ai été nommé sourcier, avec le droit de la porter tant que je le désirerais. C'est moi, et personne d'autre, qui déciderait quand sonnera l'heure de m'en séparer.
« Nommé sourcier ?» répéta Verna, les yeux écarquillés.
« Tu n'as pas trouvé l'épée ? Tu n'es pas parti à sa recherche ? Un sorcier te l'a remise et t'a nommé ? Tu serais un authentique sourcier ?
C'est ça.
Qui t'a nommé ?
L'homme dont je vous ai déjà parlé. Zedicus Zulzorander.
Tu l'as rencontré le jour où il t'a donné cette arme ?
Non. J'ai passé ma vie près de lui et il m'a quasiment élevé. C'est mon grand-père.
Il y eut un long moment de silence.
Il t'a nommé sourcier parce qu'il refusait de t'enseigner le contrôle du don ? Il ne voulait pas que tu deviennes un sorcier ?
Au contraire. Quand il s'est aperçu que j'avais ce foutu don, il m'a presque supplié de le laisser me former.
« Il voulait t'entraîner, » souffla Verna.
« Oui, mais j'ai décliné sa proposition. »
Verna semblait si perturbée par ces révélations que cela inquiéta Richard.
« Il a dit que l'offre tenait toujours si je changeais d'avis. »«
Pourquoi êtes-vous aussi troublé ?»«
Eh bien, c'est inhabituel, voilà tout. Comme beaucoup de choses à ton sujet. »
Richard ne crut pas un mot de cette dérobade. Peut-être n'avait-il pas besoin du collier, si Zed pouvait l'aider sans recourir à cette humiliation. Mais Callan l'avait forcé à accepter le Radahan. Elle voulait qu'on l'éloigne d'elle. Ce souvenir lui déchirait les entrailles. L'épée était tout ce qui lui restait de Zed. Il la lui avait donnée alors qu'ils étaient encore en terre d'Ouest, chez eux. Richard avait le mal du pays. Il se languissait de ses chères forêts.
Sœur Verna, j'ai été nommé sourcier, et cette épée m'appartiendra jusqu'à ce que je renonce à mon titre. C'est ma décision et mon privilège. Si vous envisagez de me prendre l'arme, autant essayez maintenant. Dans ce cas, l'un de nous mourra.
À vrai dire, je me fiche que ce soit vous ou moi.
Mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Cette arme est à moi et nul ne m'en privera. »
Dans le lointain, un animal poussa un cri d'agonie suivi d'un lourd silence.
« Puisqu'on t'a donné l'épée et que tu ne l'as ni trouvée ni cherchée, je consens à te la laisser. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais je ferai tout pour les convaincre. Notre mission est de t'apprendre à contrôler ton don et à maîtriser la magie. »
Elle se redressa de toute sa taille et regarda Richard avec une telle colère glaciale mais terrible qu'elle dut lutter pour ne pas reculer.
« Mais si tu l'attires encore contre moi, je te ferai regretter le jour où le Créateur t'a donné la vie. Nous nous comprenons bien. Qu'ai-je de si important pour que vous soyez prête à tuer pour me capturer ?»« Notre travail, »
dit Verna, toujours terrifiante de froideur,
« est d'aider ceux qui ont le don parce qu'il leur a été conféré par le Créateur. » C'est lui que nous servons et c'est pour lui que nous mourrons. À cause de toi, j'ai perdu deux de mes plus chers amis. Depuis, je pleure chaque soir en m'endormant. J'ai dû tuer cette femme ce soir et il me faudra peut-être abattre d'autres personnes avant que nous arrivions au palais.
Richard eut le sentiment qu'il valait mieux ne rien dire, mais il ne put se retenir. Cette femme avait le génie de le mettre hors de lui.
« N'essayez pas de vous décharger sur moi de votre culpabilité, sœur Verna !»
Elle s'empourpra tellement que Richard s'en aperçut malgré l'obscurité.
« J'ai essayé d'être patiente avec toi, Richard. J'ai laissé du mou à ton licol parce que tu as été brutalement arraché à ta petite vie paisible et propulsé dans une situation qui te dépasse et t'angoisse. Mais mon indulgence a des limites. » J'ai tenté de ne pas voir, quand je te regardais, les cadavres de mes amis, et de ne pas penser à elles lorsque tu me dis que je n'ai pas de cœur. Sais-tu ce que je ressens à l'idée que c'est toi qui les as enterrés et pas moi? As-tu idée des paroles que j'aurais pu prononcer sur leur tombe? Ce qui se passe depuis quelques jours échappe à ma compréhension et remet en question mes convictions les plus profondes. Si ça ne tenait qu'à moi, je te retirerais ton Radahan pour te laisser devenir fou et mourir de douleur. Mais ça n'est pas de mon ressort, car j'exécute la volonté du Créateur.
« Sœur Verna, je suis désolé, » dit Richard un peu plus calme.
À la froide colère de la sœur, il aurait de beaucoup préféré des cris et de la fureur.
« Tu t'es énervé parce que je te traite comme un enfant, mais sans me donner une seule raison de changer d'attitude. Richard, je connais le chemin qu'il te reste à faire avant de maîtriser ton pouvoir. Aujourd'hui, tu es un bébé qui pleurniche pour qu'on le lâche seul dans le monde, alors qu'il ne sait même pas marcher. Le Radahan peut te contrôler, et aussi t'infliger de la douleur, une atroce douleur. Jusqu'à présent, j'ai évité d'y recourir, préférant te convaincre plutôt que de te contraindre. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, je n'hésiterai pas. Le Créateur m'est témoin que j'aurais tout essayé. Bientôt, nous aborderons un pays plus dangereux encore que celui-ci. Pour le traverser, nous devrons nous arranger avec sa population. Les sœurs de la lumière ont conclu des accords avec ces gens. Pour bénéficier de ce droit de passage, tu devras m'obéir et leur obéir, sinon les choses tourneront très mal.
« Que devrais-je faire ?» demanda le sourcier méfiant.
« Ne me provoque plus ce soir, Richard. »
« D'accord. »
« Si vous gardez à l'esprit que vous n'aurez pas mon épée sans devoir combattre. »« Nous voulons simplement t'aider, Richard. Mais si tu me menaces encore avec cette arme, je te le ferai regretter. »
Elle baissa les yeux sur la gielle pendue au cou du jeune homme.
« Les morts de Sith n'ont pas le monopole de la douleur. » La confirmation des soupçons de Richard. Les sœurs de la lumière entendaient le dresser exactement comme Dena. Leur Radahan servirait à le faire souffrir. Pour la première fois, Verna s'était trahie. J'ai un travail à terminer avant de partir,
dit-elle en tirant le livre de sa ceinture.
Va enterrer cette femme et cache bien son cadavre. Si les autres la trouvent, ils comprendront ce qui s'est passé et nous chercheront. J'aurais pris une vie pour rien.
Elle s'assit devant le feu éteint et le ralluma d'un geste distrait de la main.
Quand tu l'auras inhumé, offre-toi un petit tour pour te calmer. Ne reviens pas avant d'avoir repris tes esprits. Si tu essaies de fuir ou si tu ne mets pas un peu de plomb dans ta cervelle de moineau, je te ramènerai à moi avec le collier et je te jure que tu n'aimeras pas ça. »
La morte n'étant pas très lourde, Richard s'enfonça dans les collines sans souffrir de ce fardeau. Avec la pleine lune, se repérer ne posait aucun problème, des conditions idéales pour broyer du noir en marchant. Le sourcier, à sa propre surprise, avait du chagrin pour Verna. Jusque-là, elle n'avait jamais fait allusion à la mort de Grace et d'Elisabeth, et il en avait conclu qu'elle n'éprouvait rien. Quelle erreur! À présent, il était désolé pour elle et regrettait qu'elle se soit confiée à lui. S'insurger contre son sort était plus facile quand il la pensait sans cœur. Il s'éloigna beaucoup du camp, errant dans un labyrinthe de petites murailles rocheuses et de pierres dressées. S'arrachant à sa sinistre méditation, il repensa au cadavre dont il avait la charge. Même si la blessure infligée par le Dacra n'était pas la cause de la mort, du sang maculait la robe de la femme et ce contact poisseux sur son épaule le révulsait. Il posa doucement le cadavre sur un rocher et chercha un endroit où l'inhumer. Une petite pelle pendait à sa ceinture, mais creuser ne serait pas facile dans ce sol rocailleux. Ne valait-il pas mieux trouver une crevasse et recouvrir le corps de pierre? Alors qu'il sondait les environs, Richard passa distraitement une main sur la brûlure de sa poitrine. Nicelle lui avait donné de quoi faire des cataplasmes. Chaque jour, il s'en appliquait un et changeait le pansement, mais il détestait poser les yeux sur l'empreinte de main imprimée dans sa chair. Selon Verna, il pouvait s'être brûlé en tombant dans la cheminée de la maison des esprits. À moins que les sbires de celui qui n'a pas de nom l'aient attaqué, mais il connaissait la vérité. C'était la marque du royaume des morts, le signe de Darkenral. Honteux d'être ainsi stigmatisé, il n'avait pas montré la blessure à la sœur. Symbole de la véritable identité de son père, elle était un affront à George Cypher, l'homme qu'il avait élevé et aimé. La marque lui rappelait aussi qu'il était un monstre, au point que Callan avait voulu se débarrasser de lui. Richard chassa un insecte qui bourdonnait autour de sa tête. Baissant les yeux, il vit que d'autres tournaient autour du cadavre. Avant même de sentir la morsure dans son cou, il se pétrifia, le sang comme glacé dans les veines. Des mouches à sang. Le sourcier dégaina son épée dès qu'il aperçut la silhouette noire tapie derrière un rocher. La note métallique de l'arme fut couverte par un rugissement. Les ailes déployées, le garde fondit sur sa proie. Du coin de l'œil, le sourcier crut apercevoir un deuxième monstre accroupi près du même rocher, mais il n'eut pas le temps de s'apesantir sur ce point. La bête était trop grosse pour être un garde à longue queue. Et trop intelligente à voir la façon dont elle évita le premier coup de Richard. Un garde à queue courte. La pire rencontre possible. Le monstre était plus maigre que ceux qu'il avait vus près de la grotte du Chadrine. Sans doute parce que le gibier n'abondait pas dans cette région. Mais, émacé ou non, la créature faisait quand même une fois et demie la taille d'un homme. Reculant pour esquiver un coup de griffe, Richard trébucha sur le cadavre et s'étala de tout son long. Et il se releva d'un bond et abattit sa lame, livrée tout entier à sa fureur. La pointe ouvrit une longue entaille sur l'abdomen rosâtre du garde, qui repassa à l'assaut et renversa le sourcier d'un coup d'aile aussi vicieux que surprenant. Richard se releva de nouveau, frappa et coupa net l'extrémité de l'aile du monstre. Furieux, celui-ci chargea la gueule ouverte, ses crocs luisants au clair de lune. La magie de l'épée avait soif de sang. Au lieu d'esquiver, Richard avança et plongea sa lame dans la poitrine du garde qui hurla à la mort. Le sourcier dégagea son arme, prêt à décapiter son adversaire, mais le monstre ne repassa plus à l'attaque. Les pattes pressées sur sa proie, il tituba un instant puis tomba à la renverse, tous les os de ses ailes craquant lorsqu'il s'écroula dessus. Un gémissement monta de l'obscurité. Alors que Richard reculait de quelques pas, une silhouette se rua sur le monstre vaincu et lui couvrit la poitrine de ses petites ailes. Richard n'en crut pas ses yeux. Un bébé garde. L'adulte blessé leva une patte tremblante pour caresser une dernière fois son petit. Puis il poussa un soupir résigné et laissa retomber sa main griffue. Ses yeux verts que la lumière désertait peu à peu se posèrent sur le bébé puis se levèrent vers Richard, l'implorant en silence. Crachant des bulles de sang, le garde lâcha un dernier gémissement et mourut tandis que son petit s'accrochait à lui de toute la force de ses pattes à peine formées. Bébé ou pas, c'était un garde, pensa Richard en approchant. Il devait tuer ce monstre-là aussi. Submergé par la colère de l'épée, il arma son bras. Le bébé recula un peu et leva une aile pour se protéger. Même mort de peur, comprit le sourcier, il n'abandonnerait pas le cadavre de sa mère. Sous l'aile tremblante, une petite gueule terrifiée regarda Richard. Des yeux verts où perlaient de grosses larmes se rivèrent sur lui. « Esprit bien-aimé !» souffla le sourcier. « Je ne peux pas !» Le bébé garde frissonna et gémit quand il vit la pointe de l'épée s'abaisser lentement vers le sol. Richard se détourna et ferma les yeux, torturé par la magie de l'arme qui lui infligeait la douleur éprouvée par son ennemi vaincu et dégoûté par ce qu'il avait failli faire. Il rengaina l'épée, prit une grande inspiration pour se calmer, puis ramassa le cadavre de la femme et regarda autour de lui. Le bébé garde gémissait toujours sur le corps de sa mère. Monstre ou pas, Richard savait qu'il ne pourrait pas le tuer. De plus, pensa-t-il, l'épée ne le laisserait pas aller jusqu'au bout, car sa magie était active uniquement en cas de menace. Non, même s'il le désirait, l'arme ne lui permettrait pas de tuer le petit garde. Sauf s'il faisait virer la lame au blanc. Mais il n'était pas prêt à s'infliger cette torture pour exécuter un nourrisson sans défense. Il s'éloigna assez pour ne presque plus entendre les sanglots du bébé et reposa le cadavre de la femme. Parvenu au sommet d'une petite colline, il voyait à peine la dépouille du garde et la silhouette recroquevillée sur sa poitrine. « Esprit bien-aimé, qu'ai-je donc fait ? » murmura-t-il. Comme toujours, les esprits ne daignèrent pas lui répondre. Du coin de l'œil, le sourcier capta un mouvement. Deux silhouettes planaient en rond dans le ciel. Des garnes. Richard se leva. S'il voyait le bébé, il l'aiderait sans doute. Il se réjouit à cette idée, puis mesura soudain combien il était absurde de désirer qu'un garne survive et grandisse. Mais à son corps défendant, il commençait à éprouver une étrange sympathie pour les monstres. Les deux garnes se posèrent non loin du cadavre. Aussitôt, le bébé cessa de gémir. Pas longtemps, car il poussa un cri d'effroi quand les deux adultes bondirent sur lui. Beaucoup d'animaux dévoraient les petits de leur race, surtout les mâles, et particulièrement quand la nourriture était rare. Les garnes n'allaient pas secourir le bébé, mais le manger. Sans vraiment comprendre ce qu'il faisait, Richard dévala le versant de la colline. Stimulé par les cris de terreur du bébé qu'un monstre serrait déjà entre ses pattes, il accéléra encore tout en dégainant son arme. La férocité des deux adultes, prêts à déchiqueter un être sans défense, exacerba la fureur que lui communiquait l'arme. Il bondit sur les garnes, plus gros que celui qu'il venait de tuer, c'était bien des mâles, et abattit sa lame. S'il toucha seulement le vide, le plus grand des monstres lâcha le bébé qui alla se réfugier près du cadavre de sa mère. Les deux adultes firent face aux sourciers, mais il les maintint à distance avec sa lame. Quand un des monstres reprit le bébé entre ses griffes, il chargea, le força à lâcher sa proie, récupéra son protégé et recula d'une dizaine de pas. Les gardes se jetèrent sur la dépouille de la femelle. Le bébé tendit les pattes vers sa mère et tenta de se libérer en battant frénétiquement des ailes. Tandis que les monstres déchiquetaient le cadavre, Richard prit une décision dictée par la logique. Tant que le cadavre serait là, le bébé ne s'en éloignerait pas, et il aurait une meilleure chance de survivre si rien ne l'empêchait de se déplacer. Le petit monstre se débattait toujours. Bien que mesurant la moitié de la taille du sourcier, il n'était pas si lourd que ça. Richard feignit de charger les deux adultes, trop affamés pour se laisser chasser sans emporter leur proie. Se battant pour la déchiqueter, ils la coupèrent en deux en quelques secondes. Quand Richard attaqua de nouveau, le bébé se libéra et détala en hurlant. Chacun tenant une moitié de cadavre dans la gueule, les adultes s'envolèrent en quête d'un endroit où finir leur repas en paix. Revenu là où sa mère gisait un peu plus tôt, le bébé les regarda disparaître dans le ciel. Haletant, Richard rengaina son épée et s'appuya contre un rocher pour reprendre son souffle. Tête inclinée sur la poitrine, il éclata en sanglots.
Bon sang, il devenait cinglé. Pourquoi avait-il risqué sa vie pour rien?
Non, pas pour rien.
Il releva la tête. Le bébé Garn s'était couché sur le sol que rougissait encore le sang de sa mère. Ses gros yeux verts plongèrent dans ceux du sourcier.
« Je suis navré pour toi, mon petit, »
murmura Richard. Le monstre fit un pas vers son sauveur, des larmes roulant sur son hideux visage. Voyant que l'humain pleurait aussi, il osa s'approcher encore. Richard tendit les bras. Le Garn hésita, puis, avec un gémissement pitoyable, il se précipita vers ce refuge miséricordieux. Le bébé passa ses longs bras autour du torse de l'humain et l'enveloppa de ses ailes. Et Richard lui rendit son étreinte. Lui caressant tendrement le dos, il émit des grognements réconfortants, comme l'aurait sans doute fait sa mère. De sa vie, il n'avait jamais vu une créature assez désespérée pour accepter la tendresse de l'être responsable de son malheur. Était-ce parce que le bébé voyait en lui celui qu'il avait arraché aux griffes de deux prédateurs, pas le meurtrier de sa mère? Ou choisissait-il de considérer les choses ainsi? À moins que le dernier événement, si traumatisant, ait pris le pas sur le souvenir du précédent. Le bébé Garn n'était guère plus qu'un sac d'os. Il crevait de faim, l'estomac gargouillant malgré son chagrin. Son odeur musquée, sans être agréable, n'avait rien de répugnant. Et les grognements de Richard devaient être efficaces car il se calmait peu à peu. Quand il cessa de pleurer, le sourcier se dégagea doucement. Levant les yeux vers lui, le petit Garn le retint du bout des griffes par la jambe de son pantalon. Le jeune homme regretta de ne pas pouvoir lui laisser quelque chose à manger. Hélas, il n'avait pas emporté son sac. « Je dois y aller, » dit-il en écartant les bras du bébé de ses jambes. « Les deux adultes ne reviendront pas tout de suite. Essaie de te trouver un lapin ou un autre petit animal. Tu devras te débrouiller tout seul à présent. Allez, file !» Le petit Garn ne broncha pas. Quand Richard se fut détourné et éloigné de quelques pas, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Son protégé le suivait.
« Tu ne peux pas venir avec moi !» dit le jeune homme en faisant volte-face. « Va-t'en, je ne veux plus te voir !»
Il partit à reculons.
« Dégage de là! Que veux-tu que je fiche d'un Garn apprivoisé ?»
Cette fois, le bébé parut comprendre. Il recula, l'air misérable, comme si on venait de le trahir. Richard devait encore enterrer la femme et il avait intérêt à retourner au camp avant que Verna décide de l'y ramener de force. Inutile de lui donner un prétexte pour le faire souffrir. À coup sûr, elle en trouverait un bien assez vite. Le jeune homme pressa le pas et regarda une dernière fois derrière lui. Le bébé Garn avait disparu. Il retrouva le cadavre là où il l'avait laissé et constata soulagé qu'aucune mouche à sang ne bourdonnait plus autour. À présent, il devait dénicher un carré de terre à ses meubles ou improviser un cairn pour dissimuler le corps. Verna avait été très précise sur ce point. Alors qu'il étudiait le terrain, un battement d'ailes déchira le silence et le bébé Garn se posa en douceur près de lui. Richard lâcha un soupir accablé quand le petit monstre replia ses ailes, se serra contre sa jambe et leva vers lui un regard suppliant. Un coup de pied, pas vraiment méchant, ne faisant aucun effet, Richard plaqua les poings sur les hanches.
« Tu ne peux pas venir avec moi. Fiche le camp !»
Le garde s'accrocha à lui, tel un naufragé à un morceau de bois flotté.
« Bon sang, comment se sortir de là ?»
Il imaginait déjà la tête de Verna s'il lui ramenait son petit garde apprivoisé.
« Où sont tes mouches à sang ? Tu es encore trop jeune pour en avoir. Comment pourras-tu chasser si elles ne pistent pas tes proies ?»
Richard se secoua mentalement. Par tous les esprits du mal, quelle ânerie était-il en train de débiter?
De toute façon, c'est pas mon problème.
Le bébé Garn grogna et ouvrit la gueule, dévoilant une rangée de petits crocs pointus. Richard regarda autour de lui pour voir quelle proie il avait bien pu repérer.
Le cadavre de la femme. Accablé, le sourcier ferma les yeux et soupira de lassitude. S'il enterrait le corps, le garde affamé l'exhumerait.
Le petit monstre lui lâcha la jambe, trottina vers la morte et la palpa du bout des griffes.
Richard frissonna, la bouche atrocement sèche. Non, il ne fallait pas penser à une chose pareille.
Pourtant, Verna avait insisté. Les compagnons de cette femme ne devaient pas la retrouver.
Peut-être, mais il ne supportait pas l'idée qu'un monstre dévore sa dépouille. Cela dit, même s'il l'enterrait assez profondément, les vers s'en chargeraient. Valait-il mieux qu'un bébé garde ?
Une autre idée très déplaisante lui vint. Au nom de quoi pouvait-il en juger, lui qui avait consommé de la chair humaine ? Où était la différence ? De quelle supériorité pouvait-il se prévaloir sur les garnes ?
De plus, si le bébé était occupé à manger, il lui fausserait discrètement compagnie, et Verna et lui seraient loin avant qu'il pense à les suivre, une manière comme une autre de se débarrasser d'un compagnon gênant.
Le petit garne inspectait toujours son futur repas. Histoire de voir, il lui mordilla doucement un bras, puis il le lâcha, pas assez expérimenté pour savoir quoi faire d'une proie.
Richard crut qu'il allait vomir. Mais le bébé le regarda, éperdu, comme s'il lui demandait de l'aide. Ses ailes tremblaient d'excitation, le pauvre crevait de faim.
Deux problèmes résolus d'un coup.
Et ça changerait quoi ? La femme était morte. Son esprit avait quitté son corps et n'en aurait plus jamais besoin. Deux problèmes résolus d'un coup.
Les dents serrées, Richard dégaina son épée et écarta le petit garde du bout de sa botte. Puis il abattit sa lame et éventra le cadavre.
Le bébé bondit sur ce festin.
Sans un regard en arrière, le sourcier s'éloigna. Les bruits de mastication lui retournaient l'estomac, mais quel droit avait-il de blâmer le petit animal ?
La tête lui tournant un peu, de la sueur trempant sa chemise, il retourna au camp au pas de course.
L'épée de vérité ne lui avait jamais semblé peser aussi lourd à sa hanche. Pour oublier ce qu'il venait de vivre, il pensa au bois de Heartland et souhaita ne les avoir jamais quittés et être resté le jeune homme qu'il était avant le début de cette atroce aventure.
Verna avait fini de s'occuper de Jessup et elle s'apprêtait à le sceller. Elle jeta un regard noir à Richard avant de s'approcher de la tête de l'animal pour lui flatter les naseaux et lui murmurer quelques gentillesses.
Richard prit la brosse et étria rapidement Géraldine en lui ordonnant de rester tranquille. Il était rudement pressé de partir.
« Tu t'es assuré que nos ennemis ne trouveront pas le cadavre ?»
demanda Verna.
Richard se pétrifia. « S'ils découvrent des restes, ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Des gardes m'ont attaqué, ils ont volé la dépouille. »
« J'avais bien cru entendre des cris de garde. Eh bien, c'est une solution comme une autre. »
Richard recommença à étrier Géraldine, mais une autre question fusa.
« Tu les as tués ?»«
J'en ai abattu un, oui. »
Il envisagea de mentir par omission, puis décida que ça n'en valait pas la peine.
Et il y avait aussi un bébé, je l'ai épargné.
Les gardes sont des bêtes dangereuses, tu aurais dû l'éliminer. Si tu retournais là-bas finir le travail ?
Impossible, il ne me laisserait pas approcher assez.
Tu as un arc ?
Lâcha Verna en tirant sur le harnais de Jessup.
Pourquoi perdre du temps ? Livré à lui-même, il ne fera pas de vieux os.
Verna se pencha pour vérifier que la sangle ne blessait pas le cheval.
Tu as peut-être raison. Plus vite nous serons loin d'ici, mieux ça vaudra.
Sœur Verna, pourquoi les gardes ne nous ont-ils pas attaqués plus tôt ?
Parce que j'ai érigé un bouclier contre eux, avec mon Han. Mais tu étais trop loin de moi et ils ont pu t'atteindre.
Votre bouclier continuera à les éloigner de nous ?
Oui.
La première fois que Richard voyait une utilité à ce foutu pouvoir.
Ça ne vous coûte pas trop d'énergie ? Les gardes sont d'énormes bêtes. Ce n'était pas trop dur ?
Cette question fit sourire la sœur.
Oui, les gardes sont gros et je dois nous défendre contre d'autres bêtes. Cela consomme beaucoup de pouvoir, mais nous sommes entraînés à utiliser la méthode la plus économique.
Elle caressa le cou de Jessup avant de continuer.
Je tiens les gardes à distance en nous isolant de leurs mouches à sang. Si elles ne peuvent pas traverser le bouclier, les monstres ne se doutent pas qu'il y a des proies dans le coin.
Je dépense peu de force et j'atteins quand même mon objectif.
Pourquoi n'avez-vous pas employé la même méthode avec la femme qui a tenté de me tuer?
Certains habitants du pays sauvage détiennent des charmes qui les rendent insensibles à notre pouvoir. C'est pour ça que tant de sœurs de la lumière ne survivent pas au voyage. Si nous savions comment agissent ces gris-gris, nous pourrions les neutraliser. Hélas, ça reste un mystère pour nous.
Richard scella Géraldine et Bonnie sans desserrer les lèvres.
Verna attendit en silence. Il s'attendait à de nouveaux commentaires sur leur dispute avant qu'ils partent enterrer la femme, mais il se trompa. Il décida de prendre les devants.
« Sœur Verna, je suis désolé au sujet de Grace et Elisabeth. »
Il baissa les yeux et caressa l'épaule de Bonnie.
« J'ai dit une prière sur leur tombe pour demander aux esprits du bien de veiller sur elles et de les traiter amicalement. Je n'aurais pas voulu qu'elles meurent. Vous croyez peut-être le contraire, mais je ne souhaite jamais la mort de personne. Je suis fatigué des tueries. » Et je ne mange plus de viande parce que l'idée qu'un être doive mourir pour moi me dégoûte.
Merci pour tes prières, Richard. Mais tu devras apprendre à les adresser uniquement au Créateur. C'est sa lumière qui nous guide. Parler aux esprits est un blasphème.
Elle s'aperçut que son ton était trop dur et changea de registre.
Mais tu ne pouvais pas le savoir, faute d'éducation. Comment te blâmer alors que tu fais de ton mieux? Je suis sûr que le Créateur t'a entendu et qu'il t'a jugé sur tes intentions, pas sur tes actes.
Richard détestait l'étroitesse d'esprit de Verna. Au sujet des esprits, il en savait fichtrement plus long qu'elle. S'il ignorait tout de son Créateur, il avait vu des esprits, bons comme mauvais, et on les négligeait à ses risques et périls. Le dogmatisme de Verna lui semblait aussi idiot que les superstitions des paysans qu'il fréquentait quand il était guide. L'origine de l'humanité était un des sujets les plus en vogue. Chaque coin perdu où il était passé professait sa version des faits, attribuant l'apparition de l'homme à un animal, voire à une plante. Il adorait écouter ces histoires pleines de poésie et de fantaisie. Mais c'était des légendes, nées du besoin de connaître la place de l'homme dans l'univers. Pas question, sachant cela, qu'il accepte aveuglément les théories fumeuses des sœurs de la lumière. Il refusait de croire que le Créateur, comme un roi, siégeait sur son trône pour écouter la moindre prière qu'on lui adressait. Les esprits, eux, avaient jadis été vivants. Ainsi, ils comprenaient les besoins des mortels et les exigences de leurs enveloppes charnelles. Selon Zed, le mot « créateur » était une autre façon de nommer la force qui assurait l'équilibre universel. Aucun patriarche, dans les cieux ou ailleurs, n'attendait pompeusement de porter sur l'humanité son ultime jugement.
Mais pourquoi s'inquiétait-il?
Il connaissait tant de gens confinés dans leurs croyances. Sœur Verna avait sa vision des choses et il ne la ferait pas changer d'avis. N'ayant jamais jugé et encore moins condamné les autres à cause de leurs convictions, il n'allait pas commencer maintenant. La foi, bien ou mal placée, pouvait être d'un grand réconfort.
Il leva son baudrier et tendit l'épée de vérité à Verna.
J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit et décidé que je ne voulais plus de cette arme.
Elle leva les mains et il y posa son épée.
Tu es sûr de toi, Richard?
Absolument. J'en ai fini avec ça. Cette lame vous appartient désormais.
Richard se détourna pour vérifier les sangles de sa selle. Même sans l'épée, il sentait toujours l'onde de sa magie. Il pouvait se débarrasser d'un morceau de métal, mais pas de la force qui allait avec. Il était le vrai sourcier, et le resterait à jamais. Mais privé de l'arme, il ne pourrait plus faire certaines choses.
« Tu es un homme très dangereux, Richard, » murmura Verna.
« C'est bien pour ça que je vous donne l'épée. Je n'en veux plus et vous la convoitez, alors prenez-la. Nous verrons si vous aimez tuer avec elle. »
Jusqu'à cet instant, j'ignorais à quel point tu étais dangereux.
Eh bien, c'est terminé puisque vous avez l'arme.
Je ne peux pas l'accepter. Mon devoir m'imposait de te la prendre après ton retour au camp pour te mettre à l'épreuve. Une seule chose pouvait t'empêcher de la perdre, et tu l'as faite.
Elle tendit l'arme à Richard.
Nul n'est plus dangereux qu'un homme imprévisible. Il est impossible de deviner comment tu réagiras sous la pression. Cela causera beaucoup de problèmes, pour toi et pour nous.
Je ne vois rien d'imprévisible là-dedans, dit Richard, quelque peu troublé par le manque de logique de la sœur. Vous vouliez l'épée et je suis là de ce qu'elle me force à faire, donc je vous l'ai donnée.
C'est ta façon de penser, mais tu es bien le seul à la voir, Richard. Tu es une énigme. Pire encore, tu te comportes d'une manière inexplicable au moment où cela va te sauver la mise. C'est le don qui te guide. Tu recours à ton Han sans savoir ce que tu fais. C'est dangereux.
Le collier est censé, entre autres, ouvrir mon esprit au don. C'est vous qui l'avez dit. Si j'accède à mon Han, en quoi est-ce dangereux puisque vous êtes là pour me l'apprendre et que je suis censé en avoir besoin pour survivre?
Ce dont tu as besoin n'est pas nécessairement bon. Vouloir une chose ne suffit pas à la rendre positive.
Verna baissa les yeux sur l'épée.
Reprends-la. Je ne peux pas l'accepter, tu dois la garder.
Je n'en veux plus.
Alors jette-la au feu. Il m'est impossible de la porter car elle est souillée.
Richard arracha l'arme des mains de Verna.
Pas question de la jeter au feu.
Il remit le baudrier.
Vous êtes trop superstitieuse, ma sœur. Ce n'est qu'une épée. Comment pourrait-elle être souillée?
Verna se trompait. Ce n'était pas l'arme, mais la magie qui était souillée, et il ne lui avait pas offert son pouvoir.
Même s'il voulait s'en débarrasser, c'était impossible. Désormais, la magie faisait partie de lui. Kalan l'avait compris et elle l'avait rejeté à cause de cela.
« Il est temps de partir, »
dit Verna d'un ton glacial en montant en selle. Richard enfourcha Bonnie et la suivit. Il espérait que le bébé garde aurait une chance de s'en sortir après s'être nourri convenablement. En tout cas, il lui adressa un adieu silencieux avant de s'enfoncer dans la nuit derrière la sœur. Bien qu'il eût pensé tout ce qu'il avait dit en lui donnant l'épée, il se réjouissait de l'avoir récupérée. Elle était une part de lui, une entité qui le rendait complet. Zed la lui avait remise. S'il avait irrémédiablement changé à cause de cette arme, elle était aussi son dernier lien avec le vieil homme et sa terre natale.